You're listening to the fucking Radio Girol.
Girol Radio Station.
Bonsoir et bienvenue. On est le deuxième mardi de chaque mois. Et on est toujours en direct du centre d'animation Saint-Pierre pour de 19h à 20h vous parler de culture libre et de tout ce qui tourne autour de Linux, de musique libre, de do-it-yourself et de jeux vidéo sous Linux. Et ce soir, ça va être la grosse partie parce que, de notre programme, parce qu'il y a des choses à dire. Alors on accueille autour de la table Antoine. Bonsoir Antoine.
Bonsoir.
Tu es un habitué en fait.
Ouais, en fait, je me suis assis là, je savais pas trop pourquoi, parce que les jeux vidéo, c'est pas vraiment mon truc, mais je me dis que ça peut servir.
Voilà. Alors, nous accueillons Mathieu, et lui, le jeu vidéo, c'est son truc.
Oui, enfin, j'ai joué un peu une ou deux fois.
de temps en temps. Gaël aussi, qui est un gamer invétéré.
Invétéré, je sais pas, mais ouais, ça va.
Si on regarde ta liste de jeux sur Steam, on pourrait croire que tu es un joueur invétéré.
Je suis surtout très sensible aux promotions. J'arrive pas à me retenir. J'allume Steam le week-end, en général, je me fais avoir.
Voilà. Et Isa, bonsoir Isa, qui ne joue pas.
Si, si.
Sur téléphone.
Ah si, c'est une grande gameuse. Hein.
Si, un peu sur Android, oui. Un peu.
Donc voilà, le ton est donné, on va parler jeux vidéo, mais pas que. On va parler de DevUAN. Alors qu'est-ce que c'est que ça, DevUAN?
DevUAN, c'est un fork de Debian qui a été fait par des gens très en couleur. Et que maintenant, on ne va pas regretter de les voir assez loin entre eux.
Le temps est donné.
Voilà, le temps est donné. En même temps, il y a un compte Twitter associé à ça et ça fait vraiment rigoler. Ou pas, du coup. Ce soir, en fait, c'est toi, Mathieu, qui a l'honneur parce que tu vas aussi nous parler de la Fedora 21 Release Day.
Voilà, qui est sorti à peu près il y a une heure et demie.
Voilà. Donc, pendant la radio, il se passe toujours des trucs.
Hein. Ouais, je regardais s'il n'y avait pas un bundle qui était sorti à l'instant. Mais en général, c'est plus au milieu de l'émission que ça sort.
C'est ça. Donc, on verra ça. Tu vas nous parler aussi du Lenovo U430 Touch, retour d'expérience. Donc, voilà, tu vas installer Linux dessus.
Moi, ça faisait un petit moment que je n'avais pas installé un Linux sur une machine récente. Et là, j'ai eu l'occasion de le faire.
Tu vas aussi nous parler de Zabbix. On en parlera tout à l'heure.
Alors, très rapidement, parce que je ne connais presque pas, en fait. Mais
vu qu'Antoine
est là, je pense qu'il pourra un peu plus en parler.
Mais avec plaisir.
C'est pas un jeu vidéo.
Oh, c'est un nom de jeu vidéo, un peu Zabbix.
Tu nous parleras d'Open Metal Cast aussi, parce que tu es un fan de métal, et ça, c'est un sujet qui te va à merveille. Open Metal Cast, rien que le titre annonce la couleur, et voilà, ça te va bien.
De la musique libre, du métal.
Voilà, on va aussi. C'est toi qui as choisi aujourd'hui les morceaux que l'on va diffuser, à savoir C418, le mec qui s'est, au petit allemand qui s'est occupé de la musique de Minecraft. Ouais. Protestant, un autre groupe de métal créatif sous licence Creative Commons. Et The Left Side, un groupe de rap américain produit par. Comment il s'appelle Carrion.
Non, Carrion, c'est le nom de la chanson de Protestant. Ah. The Cartel. The Cartel, c'est le mec qui a fait la compilation.
C'est un producteur de hip-hop américain, en fait, qui fait de la musique libre à New York, et un de ses artistes, c'est Left Side, on écoutera ça, du bon rap US. En tout cas, bienvenue chez Girol, pardon, et sachez que vous pouvez nous contacter toujours par téléphone, voici le numéro. Non, ça ne marche pas.
C'est le 05.
Au 05 81 31 43 34. Girol. La radio.
Voilà, il y a le numéro. Bon, on va commencer par le jeu vidéo parce que c'est vraiment la partie qui nous intéresse. On est tous impatients et on a eu ces derniers jours une bonne nouvelle et je te laisse, toi, Mathieu, l'annoncer.
Alors, c'est quelque chose que j'attendais depuis vraiment, on va dire, peut-être, ouais, quelques années en fait, depuis que c'est sorti. Donc, BioShock Infinite qui arrive nativement sur Linux.
Wouhou !
Et ça, on va dire, enfin, ça devrait arriver courant de l'année prochaine, début de l'année.
Ça, c'est une excellente nouvelle. Regardez, je disais que c'était un gamer invétéré, il disait que non, mais si, il a applaudi, sifflé, il a fait les... Non, c'est juste que tu attends BioShock ?
Non, j'y ai jamais joué.
Alors, j'ai attaqué le premier, enfin, j'ai fini le premier il y a peu de temps, et c'est un truc que je remarque assez souvent, c'est que chaque fois que j'attaque un jeu sur Wine, donc une émulation de Windows, et ben peu de temps après, ben, le jeu est soit porté ou genre la suite est portée ou quelque chose comme ça. Par exemple, Borderlands, j'avais attaqué le 1. Quelques semaines après, ben, Borderlands 2 sur Linux. Voilà. Donc je devrais jouer à plus de jeux sur Windows en fait.
C'est ça. Alors, il va se poser plusieurs questions. Là. Enfin, voilà. Ce qu'on peut dire en attendant, c'est que le port a été annoncé par 2K directement depuis leur compte Twitter il y a maintenant 4 jours.
Au début, il n'avait pas été annoncé. C'est juste que l'information était disponible sur SteamDB.
Voilà,
SteamDB, ça permet d'inspecter les données qui sont sur Steam. Et des gens ont vu, ben, voilà, il y a des binaires Linux qui arrivent. Et après, voilà, le bruit s'est un peu répandu. Et après, ben, 2K a vraiment confirmé sur leur Twitter que voilà. le port était...
Je n'ai pas le tweet en mémoire, mais il me semblait qu'il était plutôt jovial et plutôt, voilà, qu'il le ton donné laissait à penser que le port allait être de bonne qualité. Et d'ailleurs, se pose la question de qui peut bien réaliser ce port.
Alors,
c'est une question qui a été posée sur Gaming on Linux, le site internet, qui a été aussi beaucoup posée sur Reddit. Qui est-ce qui s'occupe du port?
Alors déjà, ce ne sera pas Aspyr qui a fait le port sur Mac.
Et qui a fait le port de Borderlands 2, qui est d'excellente qualité, sous Linux.
Donc ce ne sera pas eux déjà, parce qu'ils ont confirmé qu'ils ne bossaient pas dessus. Après, il y a d'autres possibilités. Il y en a qui ont suggéré que ça pourrait être Virtual Programming, donc qui ont fait Witcher 2 et qui emploient des méthodes pas forcément appréciées de tous, qui sont d'utiliser un wrapper autour de DirectX.
Un peu ce que fait Wine, en peut-être un peu plus élaboré.
Un peu, ouais, en faisant quand même un binaire Linux, mais avec en gardant les appels DirectX, qui se rapproche quand même de ce que fait Valve aussi, hein, sur certaines choses. Ils ont aussi un wrapper, mais qui doit être de meilleure qualité. Donc, on ne sait pas si c'est le cas, s'ils s'en occupent. Peut-être que ça pourrait être Iculus, qui a travaillé sur des jeux Unreal Engine, dont BioShock en fait partie.
Voilà, il est bon de préciser à nos auditeurs quand même que effectivement BioShock Infinite utilise l'Unreal Engine 3 largement modifié et que ces modifications du coup le rendent compatible DirectX 10 11 qui permet de gérer certains effets. Ouais.
Donc moi ce que j'espère c'est que le port sur Linux utilisera OpenGL 4 parce que le port Mac sur Mac en fait il y a pas d'OpenGL 4, c'est limité à 3.2. Donc ils ont un jeu qui doit être un peu moins joli que la version Windows. Si sur Linux on a du OpenGL 4, et ben on aura donc deux jeux qui sont OpenGL 4, ce qui seront Metro.
Pas encore sorti, on
Metro
va en parler
Redux,
tout à l'heure.
Bientôt. Et BioShock.
Voilà, donc effectivement c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'un autre grand éditeur s'intéresse à Linux.
Oui, enfin, en tout cas, ça fait un petit moment qu'il s'y intéresse et c'est une bonne chose.
Voilà. Sachant qu'effectivement, dernièrement, là, il y a maintenant 2 mois, nous avons reçu, comme je disais tout à l'heure, le port de Dead Island, qui est un jeu qui date de 2008, qui est quand même plus ancien.
2008 Je pensais que c'est un peu plus récent que ça.
Il me semble 2008 ou 2009. Il faudrait vérifier. Qui est un port d'excellente qualité, un jeu d'excellente qualité, qui est quand même relativement agréable à regarder. Et ça, c'est pareil, impossible de trouver l'information sur qui a réalisé le port.
Tiens, 2011.
Ah.
Oui, ouais, c'est pas été clair qui l'a porté. Je sais pas, enfin, c'est bizarre que.
Alors, Virtual Programming et leur technologie Eon, ils ont participé au port sur Mac, mais sous Linux, on n'en sait rien. Sachant que le jeu fonctionne bien et que dès le départ, il y a eu moins de problèmes
que avec The Witcher 2. Là, c'est pas un port refait avec Eon. C'est un vrai port qui fonctionne plutôt bien, quoi.
Alors, l'actualité aussi des jeux vidéo, c'est le retour de Day of the Tentacle qui a été annoncé à un événement PlayStation par Double Fine, et donc notre ami Tim Schafer. Ça revient, et apparemment ça revient compatible Linux. Alors on n'en sait pas trop pour l'instant, je ne sais pas ce que tu as eu toi de ton côté comme information.
Pas trop d'informations là-dessus. J'avais vu aussi qu'il y avait un Kickstarter qui était lancé pour... un jeu fait par les créateurs de Maniac Mansion, qui était dans le même style, et qui devrait aussi arriver sur Linux.
Voilà, qui est fait par Ron Gilbert, qui est le papa des Monkey Island, et qui revient un peu aux sources du jeu Point and Click. Je ne me souviens plus du tout du nom du jeu.
Non plus.
C'est bien dommage. On va essayer de vous trouver ça avant la fin de notre émission. Donc ça bouge pas mal le côté jeu vidéo.
Il y a aussi une sortie très récente, c'est The Talos Principle.
Tu m'en parlais tout à l'heure en antenne.
Oui, qui est une sorte de FPS puzzle qui ressemble pas mal à Portal, qui est fait par les créateurs de Serious Sam, donc avec le nouveau moteur de Serious Engine 4, donc qui est très chouette graphiquement. Ils ont une version de test qui est gratuite, qu'on peut essayer sur Steam là, dès aujourd'hui. Et j'hésite quand même à me l'acheter, quoi. Enfin, même si ça reste un peu cher parce que c'est nouveau, mais ça a l'air vraiment très bien, quoi. J'ai vraiment aimé la version de test.
Donc un jeu à tester, The Talos Principle. Il y a aussi des jeux que l'on attend. Enfin, moi, personnellement, j'attends et j'espère qu'ils seront sous le sapin à Noël. C'est Metro Redux et Metro Last Light Redux. Est-ce que tu sais où on est côté port? Parce que pour l'instant, pas de nouvelles.
Pas du tout. Et même sur... Il y a un autre port qui est en préparation, c'est Darksiders. Ça, pareil, enfin, le mec qui faisait le port a arrêté et c'est quelqu'un d'autre qui prend le relais, quoi. Ça, pareil, enfin, le port est pratiquement fini et on attend, quoi. C'est pareil pour Metro.
Metro, sachant que si on regarde effectivement sur SteamDB, qui est une mine d'informations relativement importante, les dépôts existent pour Linux, mais ils sont protégés par un mot de passe et on ne sait pas si quelqu'un a déjà pu le tester ou non.
Après, pour rester, tu parlais de Noël et des jeux vidéo et d'acheter des jeux vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette petite info avec un compte rendu, on va dire, de l'analyse du marché européen des jeux vidéo. Commandé et réalisé par le CEL, donc un syndicat d'éditeurs de logiciels ludiques, un truc dans le genre, enfin, je sais plus. En fait, qui réunit Ubisoft, Nintendo, Sony, enfin, un peu tout le monde, tous les gros acteurs des jeux vidéo. Donc, on se doute bien que le rapport en soi n'était pas particulièrement objectif. Et en fait, il y a la chaîne YouTube qui s'appelle Un Drop dans la Marque qui démonte tous les arguments en deux minutes. Bon, c'est pas. Ils disent que faut regarder en fait sur cette chaîne YouTube. Ce petit, ça dure 3-4 minutes la vidéo. Et ça permet de se rendre compte que tous les chiffres qu'ils avancent, par exemple, il y a le marché plus important en termes de chiffres d'affaires. En France, enfin, la France fait partie du top 3 européen. Mais si on regarde proportionnellement par le nombre d'habitants, on est bien, bien loin du top 3. En réalité, ils prennent juste il y a 65 millions d'habitants, donc ça génère tant. Alors que tu prends la Finlande, et là, ils dispensent. Sur une année, par exemple, quelqu'un en France, ils ont dépensé 40 euros en jeux vidéo, en moyenne, hein, j'entends bien, qu'en Finlande ou en Suède, ils vont dépenser 79 euros ou plus. Et donc, c'est assez marrant. Je crois que c'est à l'approche de la... Il y avait la Paris Games Week, un truc comme ça, récemment.
Oui, il y a moins d'un mois.
Voilà, donc ça s'est fait à l'approche de cet événement, ce petit rapport qui permettait de bien gonfler un peu en France des pseudo-statistiques qui finalement servaient juste à s'auto-flatter l'industrie pour dire voilà, c'est une industrie qui mène la danse en France. Ça n'aurait pas été grave si seulement les journaux spécialisés avaient repris l'info sans jamais vérifier les chiffres. C'est surtout qu'après, derrière, il y a des ministères et notamment le ministère de Fleur Pellerin qui reprennent ça et annoncent officiellement
qu'on est les champions d'Europe du jeu vidéo.
Donc on se dit que si déjà s'ils font ça juste pour ça. Ils le font peut-être pour plein d'autres choses, sur des rapports également commandés par des lobbies, hein, au final. Donc, est-ce qu'en final, en France, vous avez le sentiment que les jeux vidéo pèsent beaucoup sur l'économie du marché ou au contraire, est-ce que c'est... Enfin, en tant que... Genre, on est quand même là, pour, au moins trois autour de la table assez adeptes de jeux vidéo. C'est une part importante, on y met un peu d'argent chaque année. Souvent, on met souvent plus de l'argent pour des studios indépendants. Donc, on est peut-être un peu en dehors aussi de ce marché qu'essaient de décrire les professionnels du milieu. Et du coup, voilà. Toi, je sais que tu es un peu plus console que nous. Moi, je suis moins, et Mathieu aussi.
Bande de paysans.
J'assume.
Ça laisse quand même. Bon, même si tu sais que. Tu dis que chez Sony, il laisse quand même un peu de place. Enfin, il y a plus de facilité pour les studios indépendants à sortir des jeux vidéo que peut-être que chez Microsoft, par exemple.
Alors, on va nuancer le propos. Il y a plusieurs choses à voir. La première chose, c'est que, contrairement, je pense, à ce que l'on croit, on n'est pas vraiment en dehors du marché parce qu'on achète beaucoup de jeux indépendants. Le jeu indépendant a beaucoup de succès et les fabricants de consoles l'ont compris. Sony, le premier, en intégrant beaucoup de jeux sur sa PS Vita avec des SDK, je pense, très adaptés. On peut penser que des jeux comme SteamWorld Dig, disponibles sur toutes les plateformes, sont aussi disponibles sur PlayStation 4, PlayStation Vita. Des jeux comme Guacamelee, qui sont aussi disponibles très facilement sur PS Vita et PS4, Hotline Miami. Enfin, il y a une vraie un vrai marché sur console. Et d'ailleurs, l'une des principales raisons de vivre de la PS Vita et pas Vista, de la PlayStation Vista, pour rappel, c'est la console portable de Sony, c'est les jeux indépendants. C'est ce qui la rend intéressante. Et c'est moi personnellement ce pourquoi j'en ai acheté une. Ça me permet d'avoir des petits jeux indépendants quand je pars en vacances dans la poche. Bref.
D'accord, c'est un peu à presque à l'inverse de la Nintendo 3DS par exemple.
Exactement.
Elle repose plutôt sur des gros hits et des...
Et des jeux cartouches et pas forcément de très bons jeux. Ça, c'est un autre débat. Microsoft l'a aussi très bien perçu puisque Microsoft est sert d'éditeur à pas mal de jeux indépendants. On peut penser notamment à Elysium. Dust. The Elysian Tale.
Minecraft maintenant.
Oui, Minecraft. Ce sont des jeux indépendants qui ont notamment Dust. A été publié par Microsoft et même sous Linux. Moi, ça me fait bizarre sur mon SteamOS
d'avoir le logo Microsoft,
qui arrive. Microsoft Studio. Donc, c'est preuve que
il y avait pas Shank, mais le truc Ninja.
Oui, Mark of the Ninja.
Mark of the Ninja, qui était
qui est un excellent jeu et qui est aussi un jeu édité par Microsoft. Donc, ce qui laisse à penser que les grands éditeurs sont très conscients du marché du jeu indépendant et l'ont très vite intégré dans leur console. Sony, depuis peut-être plus longtemps, peut-être une meilleure... Voilà, on trouve plus facilement des jeux indépendants sur le réseau PlayStation, mais Microsoft n'est pas en reste. Et ensuite, effectivement, comme tu le dis... vous avez d'un côté les gros éditeurs de jeux qui font pas toujours des jeux très bien finis. Ubisoft en a essuyé les foudres avec deux jeux qui ont défrayé la chronique. Watch Dogs qui est bien plus mauvais que ce qu'il laissait penser. Et quand je parle en connaissance de cause, c'est un mauvais jeu. Ça finit n'importe comment. C'est pas agréable à jouer, pas très agréable. C'est à peine joli sur une console nouvelle génération. Et plus récemment, Assassin's Creed Unity, qui est rempli de bugs. Voilà. Qui se transforme le jeu en Mars Attack plutôt qu'en Révolution Française.
Ouais, mais en fait, il y a deux éditeurs qu'on trouve pas sur Linux et qui me manquent absolument pas. C'est Ubisoft et Electronic Arts.
On est tout à fait d'accord.
Activision, ouais, enfin, ça fait.
Take-Two,
je pense que...
Il y a eu des bons jeux, il y a eu la série des...
Non, Take-Two, je pense qu'ils vont plus ou moins s'introduire sur Linux. Enfin, je sais pas. Enfin...
Puis bah, le grand dernier, Rockstar.
Ouais, c'est Rockstar. Bah, ça, je pense que... On devrait avoir, je sais pas, peut-être un jeu qui arrivera sur Linux bientôt.
Enfin, ce que je voulais dire, c'est que ces grands éditeurs, du coup, ils sont un peu propriétaires du sel et ils font dire aux données ce qu'elles veulent. Et qu'effectivement, notre gouvernement part derrière, et ça, c'est beaucoup d'hommes politiques et même d'autres, hein, ou même de responsables de grandes entreprises, rapportent les chiffres vers eux en disant « En France, on est les champions du monde ». Effectivement, ton analyse est très bonne, c'est qu'il faut d'abord voir en proportionnellement à la population. Et depuis tout le temps, certains pays européens, notamment du nord de l'Europe, sont de façon informatique, numérique, bien plus en avance que nous. Il faut rien qu'à regarder, la sous-culture des démos est très présente dans le nord des... Comment ?
Non, rien, je ne te parle pas, je te regarde.
Est très présente du coup dans le nord de l'Europe, alors qu'en France, elle a disparu depuis bien longtemps. Et les peu de créateurs de démos, dans le sens démo maker, recherchez sur internet ou sur scène.org, vous... trouverez de quoi vous trouverez.
Poète.net.
Voilà, ou Poète.net, Place to be Flamed. Effectivement, il n'y a rien ou pas grand-chose en France. Il y a du blabla. Il y avait le plan, c'était qui Rocard, pour équiper dans les années 80, pour équiper les écoles primaires d'ordinateurs de TO5 et MO5. Ils les auraient équipés de Minitel, ça n'aurait pas été pire. Donc... Enfin, toujours est-il que oui, il y a beaucoup de joueurs en France et que nous sommes pas aussi sous-représentés que nous le pensons. Et même Isaac joue à des jeux indépendants, donc c'est pour dire.
Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour pour ce soir.
On a fait le tour.
Sujet jeux vidéo.
Voilà, c'est juste que quel jeu vous attendez sous Linux pour la fin de l'année ? Sous le sapin, parce que moi j'ai dit du coup c'est Métro, j'attends Métro avec impatience, je suis tous les jours sur SteamDB en attendant à regarder.
Non, quand... le seul jeu que je voudrais, ce serait
le Démineur principal.
Mais enfin, un jeu qui existe réellement, quoi. Enfin, un jeu que j'ai pas. Si, peut-être Distance aussi, qui est un jeu de voiture futuriste. qui est pas mal.
Effectivement, moi, je trouve que c'est un peu les jeux qui manquent aussi sur nos systèmes préférés, c'est les jeux de voiture. Et... Alors, on arrive à, voilà, du plateforme, il y en a, de la 3D, même que ce soit de première personne, etc., il y en a. La stratégie, il y en a aussi. C'est,
même si il y a l'excellent 0AD qui est libre, ouais, et qui est vraiment un excellent jeu de stratégie.
On peut même trouver maintenant, si on est un peu nostalgique, toute la série des Command & Conquer et Red Alert, il y a Open Red Alert, donc qui fonctionne pas mal.
Tiens, Open Red Alert qui a tweeté, diffusé sur Reddit, tout ça, la version de Lutris d'Open Red Alert.
Tu deviens célèbre.
Pour rappel, Lutris, un installeur, on va dire...
Plateforme libre
pour gérer vos jeux, quelle que soit leur plateforme d'origine, enfin, quelle que soit, par émulateur, on entend, ou alors par nativement sur Linux, ou par Steam,
Steam Windows,
ou par...
Avec bientôt le support TOSAC qui arrive, là, je bosse dessus, et ça va faire arriver, je sais pas, environ 50 000 jeux d'un coup, paf.
Mais voilà, tu pourrais trouver un slogan, une interface pour les lancer tous. Enfin...
Ouais. Mais là, ça fait un peu Microsoft. Microsoft, ils sont un peu passés sur cette optique de un système pour les contrôler tous.
J'ai pas dit contrôler, j'ai dit
non, mais voilà.
Les lancer.
Bon, je pense qu'on peut fermer cette page de vidéo. Oui. Ça a déjà pris presque la moitié de notre session radio d'aujourd'hui. On va passer à une petite musique et je vous propose du coup C418, alors tu vas nous en parler un peu plus, Mathieu, parce que c'est toi qui as choisi la musique aujourd'hui.
C'est 418 qui est plus connu pour avoir composé les musiques de Minecraft. Donc, ouais, qui est un type qui fait de l'électro, qui est allemand, et qui fait de la musique sous licence libre. Je ne sais pas s'il a tout fait sous licence libre, mais la plupart de ses morceaux le sont.
Alors là, si je ne me trompe pas, le morceau s'appelle, enfin l'ensemble de morceaux, parce que c'est très intéressant.
Alors oui, il est très long.
Long songs are for people who don't have time to make them shorter.
Si j'ai short. Ouais.
Short, ouais. Si j'ai trois petits points, je ne vois pas la suite.
Tu ne vois pas la fin.
Je ne vois pas la fin.
Et donc, en fait, c'est sept morceaux qui sont relativement courts. Ouais.
Et, qui en forme comme.
Qui en forme, oui, comme.
Donc voilà, je vous propose C418, vous êtes sur Radio Girol.
Girol, la radio libre.
Et
vous voilà de retour. On a fait j'ai fait de la grosse merde encore une fois. Et effectivement, vous avez entendu.
Non, tu as dit, j'ai fait
de la grosse merde. Et vous avez pas entendu effectivement la plupart de la chanson. J'ai oublié de mettre le crossfader comme il faut. Et il faut que je m'habitue à ces deux playlists. C'est pas toujours très simple. Bon, on va enchaîner. Mais c'est libre. Voilà. On va enchaîner. On va parler du coup de Devon. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot bizarre?
Devon.
Devon.
À prononcer à l'italien.
Déjà, il faut voir d'où ce que ça vient, enfin pourquoi c'est arrivé, enfin tout ça. C'est un fork de Debian qui est apparu suite au mécontentement de plein de entre guillemets administrateurs système vétérans, enfin qui s'autoproclament comme ça.
Et qui participent au développement en fait, on va dire de manière active à Debian du coup.
Plus ou moins active, ouais. C'est pas tous des gros développeurs Debian. Il y en avait quelques-uns, ouais. Mais bon, c'est pas une grosse majorité. Si, parmi un des fondateurs donc de Devon, qui est il y a un mainteneur d'une distribution qui s'appelle Dynabolic, qui est une distribution orientée multimédia, son et tout ça, que j'avais essayé il y a quelques années, que j'avais trouvé très sympa en fait. Mais bon, maintenant si.
Maintenant, elle ira brûler en enfer.
Maintenant, il veut faire son truc. Le but de base de la distribution, c'est de ne pas avoir systemd, qui apparemment est genre le mal absolu selon certaines personnes.
Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche à ce lanceur? Enfin, c'est ouais, pour résumer, c'est la brique logicielle qui va permettre de lancer
tout le système qui va faire le démarrage des services.
Alors, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'ils sont pour parler des intérêts, déjà qu'il peut lancer en parallèle.
Ouais, tu peux lancer les services en parallèle. Enfin, il y a des dépendances entre services. C'est plus rapide. Ça te permet de faire globalement plus de choses. Après, moi, j'ai pas forcément.
Et il respecte la nomenclature Unix, qui consiste à mettre un D à la fin de tout ce qui est un D.
Un démon, ouais. Il y a un petit détail. C'est important. Ouais. Mais ceux qui reprochent. Des trucs à système D, et ils disent voilà, c'est pas ça rentre pas dans la philosophie Unix qui doit être respectée, genre absolument, genre c'est là un peu leur philosophie de vie en fait. Et le fait de s'en écarter un tant soit peu,
d'accord, parce que du horreur, coup, ça reste quand même un truc dont on enfin un logiciel auquel on peut accéder aux sources,
oui, c'est un logiciel totalement libre, hein.
Donc oui, donc en fait, c'est quoi? C'est juste que ça change ou alors
mais tu le démarres comment, du coup?
Ben ça, après, c'est démarré avec Grub, quoi. Mais oui, mais bon, après, c'est fait par Red Hat et ses employés, et ça, c'est le mal. Mmh.
Donc, rappelez-vous, en fait, ça fait vraiment penser à quand Pulse Audio est sorti. D'ailleurs, c'est toujours Lennart
Protring.
Protring qui est occupé de Pulse Audio. Ça a fait un tollé. Tout le monde dit, c'est le mal absolu. Maintenant, Pulse Audio est utilisé dans toutes les distributions, sauf effectivement les distributions orientées musique assistée par ordinateur.
Sauf celle qui tourne sur Jack.
Qui tourne sous Jack. Voilà.
Voilà. C'est un peu la caractéristique des gens qui font des Devon, c'est qu'ils sont très old school dans les trucs qu'ils utilisent et qu'ils aiment en fait. Et donc ils rejettent tous les trucs genre système D, mais aussi Pulse Audio. Par exemple GNOME, parce que GNOME a des dépendances sur système D, donc tout ce qui est GNOME, poubelle, hein, c'est le mal.
C'est extrémiste. Hein.
Oui, c'est très extrémiste.
Est-ce qu'ils ont la barbe?
Sûrement. J'ai pas vu des photos de ces développeurs, mais je pense qu'ils ont une grosse barbe.
Est-ce qu'ils ont des mitraillettes?
Vu que GNOME utilise GTK, il faut jeter GTK aussi. Et après, il y a des choses genre qui n'ont pas forcément de rapport.
Du coup, exemple, il reste rien à part leur système de lancement.
Non, parce que il y a les choses qu'on utilisait dans le passé, par exemple 6V init,
Pac-Man.
Par exemple, pour remplacer, pour avoir du son, OSS. Le truc qu'on utilisait dans les années 90. plein de choses. Il y avait un fil de discussion sur la mailing list où il disait, il ne faut pas utiliser Python parce que Python, c'est...
C'est système D.
Non, c'est... Enfin, si, il y en avait un qui disait...
C'est distrib vintage,
Python est utilisé pour les scripts de système D. Donc, non.
On n'utilise pas Python. Ouais.
Et voilà, en fait, ils voulaient utiliser OCaml ou des trucs comme ça, enfin Modula, des trucs genre.
C'est une distribution de 1er avril, ça.
Non, mais quand on regarde, il y a un compte Twitter qui s'appelle Shit Everyone Says, qui voilà. Apparemment, je pense, se veut se foutre
qui,
un peu de
qui
la gueule.
Prend un peu les perles qui sont diffusées sur les.
J'en ai une qui dit je la traduis en français, hein, je pense que l'erreur du packaging chez Debian, c'est que les scripts d'installation et les fichiers de configuration sont inclus avec les binaires dans un fichier deb. Enfin, c'est quand même le principe même d'un package.
Package, ouais.
Donc, c'est vraiment, c'est du grand, c'est du lourd. Nous sommes ici dans chez la famille tuyau de poil du logiciel libre. C'est pas possible quand on voit ça.
C'est les gens pour qui le logiciel libre ne suffit pas. Il faut genre du plus libre que libre. Et genre, ils vont vraiment dans l'extrême le plus total, quoi. C'est que ça doit être libre, mais en plus, ça doit être genre respectueux de plein de principes.
Genre, bio.
Dont certains ont plus de 40 ans. Enfin, voilà.
Ouais, c'est un peu des hippies qui ne sont toujours pas redescendus de leur trip. Quoi.
Ouais, c'est un peu ça. Mais en fait, le bon côté des choses, c'est qu'au moins, ils n'embêtent plus les développeurs Debian. Parce que. non, mais il y a eu des problèmes. Genre, il y a un mois ou deux, des développeurs, enfin, il y en a quelques-uns qui sont partis de Debian. Parce que voilà, enfin, ils supportaient pas l'ambiance qui s'était créée, et ça de tous les côtés, hein, de ceux qui défendaient Systemd ou de ceux qui étaient contre. Enfin, voilà, enfin, il y a vraiment eu des dégâts qui ont été faits suite à ça. Donc le fait qu'ils se tiennent un peu à l'écart, bah, c'est pas plus mal, quoi.
Oui, parce qu'on peut peut-être trouver des perles comme celle-ci chez les aficionados de Systemd aussi.
Oui, sûrement. Oui.
Faudrait qu'on cherche un petit peu parce que c'est vraiment du lourd. Hein. Je vous dis, shit everyone says sur Twitter, et il y a de quoi rire. De passer de bonnes soirées avant d'aller se coucher, c'est génial. Vous couchez super détendu. Bon, il y a d'autres choses à rajouter sur le sujet
Non, pas. Enfin, mis à part que je doute qu'ils arrivent à sortir quelque chose de très utilisable avant un bon paquet de temps. Parce qu'ils parlent beaucoup, mais
Il me semble que j'ai vu un tweet passer, j'arrive pas à le retrouver là, qui dit carrément que le noyau Linux, c'est pas de la philosophie Unix, donc ça devait être banni de Linux.
En fait, ils veulent créer un nouveau. Alors, sur Debian, il y a des dépôts comme main, contrib et tout ça. Et en fait, eux, ils veulent créer un dépôt antisocial. Et en fait, ils mettraient systemd dedans.
Anti-dépôt.
Et tout ce qui dépend de systemd, bah, ça arriverait dans antisocial.
Il y a de quoi rigoler quand même pour un petit moment. Bon, on va passer sur des choses un peu plus sérieuses et un peu plus terre à terre. Tu vas nous parler, toujours toi Mathieu, c'est ta journée ce soir, ta soirée de Fedora 21, la release day qui est aujourd'hui.
Aujourd'hui même, c'est sorti il y a quoi, 2 heures. Donc vraiment tout frais. Ça a mis un bon paquet de temps à sortir. Je crois que ça a été la release de Fedora qui a mis le plus de temps à sortir en version stable, qui a l'air d'être vraiment un truc très très abouti et qui me tarde de tester. Enfin, en général, Fedora, c'est le deuxième système que j'utilise, et j'ai réussi à détruire totalement mon installation de Fedora 20, que j'ai du coup remplacé par une Arch Linux. Voilà, c'est un peu le seul truc que je reproche à Fedora, c'est que c'est très facile à flinguer son installation. Alors que j'avais pas forcément fait grand chose de spécial, mais sûrement en rajoutant quelques dépôts, des choses comme ça, irrécupérables.
Alors, est-ce que tu as des petites fonctionnalités à nous évoquer ici?
Alors, sur Fedora 21, déjà, il y a 3 versions différentes. Il y a une version desktop, une version serveur, une version pour le cloud aussi. Comme d'habitude, c'est des versions. Enfin, ils offrent des versions de paquets qui sont vraiment très à jour. Donc, c'est la dernière version de GNOME, par exemple, 3.14. Ou il y a même des versions de KDE5 qui sont dedans. Très à jour. Enfin, sur la version de GNOME, on trouve leur interface graphique pour installer des paquets ou des choses comme ça. Ça a vraiment l'air d'être très sympa, très abouti. Pareil sur la version serveur, il y a une interface de gestion à distance par une interface web.
On ne dit pas qu'ils ont mis Webmin par défaut.
Non, pas Webmin, c'est un truc qui s'appelle Cockpit, qui est un peu l'équivalent d'un truc qu'ils ont chez Canonical, mais en pas libre. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un truc qu'ils offrent en service payant.
Oui, oui.
Et donc voilà, qui permet d'administrer ses serveurs à distance via une interface. Qu'est-ce qu'il y a aussi
Moi j'avais entendu parler de cockpit effectivement, et ça semble relativement intéressant.
Il y a aussi la possibilité d'installer, enfin d'utiliser Wayland comme serveur d'affichage. Ça fait un petit moment en fait que c'est possible, mais là ça commence à être quand même assez utilisable. Enfin, il faudrait que j'essaye sur mon ThinkPad en fait, parce que là ça fait un moment que j'ai une installation d'Ubuntu que j'ai bidouillé à mort, que je lui ai fait subir tout et n'importe quoi, et je me dis peut-être qu'il faudrait que je reparte de zéro. Et j'ai bien envie de tester sur Fedora 21.
D'accord, donc que du bon, on vous invite à vous rapprocher. C'est quoi le site internet de Fedora déjà?
Fedoraproject.org.
Voilà, qui est un projet de Red Hat, qui est l'une des plus grosses sociétés en Linux au monde quand même, c'est pas n'importe qui. Mmh. Voilà, à tester, tu nous feras un petit retour pour dire effectivement si la stabilité légendaire des Fedora, malgré le fait qu'elle soit pétable facilement, est toujours là. Parce que
ça reste assez stable quand ça marche. C'est quand même très, très stable.
C'est assez quand même sécurisé aussi au niveau, parce qu'il y a le pare-feu intégré.
Oui, c'est plus sécurisé que d'autres.
Qui, au niveau configuration, je crois qu'il est plus abordable qu'un. C'est quoi, c'est UFW je sais plus.
UFW, ça c'est sur Ubuntu. Ça c'est sur Ubuntu.
Mmh. Après, c'est du IP-table derrière.
Ouais, ça reste IP-table. Mais il y a un truc que je coupe, alors c'est le. Comment ça s'appelle, enfin, un truc qui bloque.
À part mort? Non.
Non, ça ressemble à à part mort, mais
c'est Linux.
Ouais, c'est Linux. Et ça, je peux pas vivre avec. Enfin, genre, je dois le couper, parce que sinon, enfin, ça me bloque une tonne de trucs. Et du coup, enfin, c'est un truc qui est déconseillé par plein de gens. Mais j'arrive pas à faire tourner. Genre, ça bloque Wine, ça bloque Chrome, enfin, plein de trucs. Donc, ce Linux, c'est le premier truc que je coupe sur Fedora.
Bon. On va pas faire une petite pause musicale. C'est toujours toi qui nous propose la musique. C'est The Left Side. Le titre s'appelle Left Side, tout simplement. Ça a été proposé par Cartel, qui est un producteur de rap américain, plutôt côté East Coast, et qui propose des créations en Creative Commons by NCSA. T'as trouvé ça comment?
Je trouvais ça sur YouTube. Sur une vidéo d'un Hyrax, qui est une sorte d'animal bizarre assez énervé, qui harcèle une tortue, qui finit par lui monter sur la carapace après. Quoi.
Voilà, on pourrait croire d'ailleurs dans la vidéo que c'est le ton rat machin qui rappe.
Ouais, ouais.
C'est assez sympa. Donc, Cartel Left Side sur Radio Girol. You
la radio libre.
Et nous voilà de retour, toujours en direct du centre d'animation Saint-Pierre. Et je vous rappelle que vous pouvez intervenir en direct et appeler. Voici le numéro.
Girol vous donne le micro au 05 81 31 43 31.
Girol, la radio.
C'est vrai, pourquoi s'embêter à le dire à la radio alors qu'Antoine fait ça très bien de façon enregistrée en plus. Parce que bien sûr, il a quitté la table. Nous ne sommes plus que 3 et demi. Je compte un demi-joff parce qu'il est un peu derrière. À écouter Left Side qui est d'ailleurs pas mal. Tu as trouvé ça comment?
Très très bien.
Voilà. Merci beaucoup Mathieu. Je ne savais pas que tu étais capable d'écouter du rap US East Coast.
Moi j'écoute plein de trucs.
Et là, c'était
il a grandi avec MTV dans les années 90. Donc.
Ouais, c'est vrai.
Ça, il faut aller sur mtv.strikecore.com. C'est plein de musique non libre. 700 morceaux en fait.
Et non pas strikecore.mtv.
Comme c'est ton soir ce soir, tu vas nous parler encore et tu vas nous parler de Lenovo U430. T'as osé installer Ubuntu sur un PC récent et alors, comment ça s'est passé?
Et alors, ça s'est très très bien passé en fait. J'ai fait ça. Déjà, je pense que c'était une machine qui était sans UEFI parce que j'en ai pas vu la trace en fait.
Alors, sachant que maintenant Ubuntu a des clés signées UEFI, donc tu n'en verras pas trop la différence, sauf qu'il a besoin d'une partition UEFI effectivement.
En fait, j'ai fait ça vraiment sans me soucier des détails techniques et tout ça. J'ai fait ça genre. Donc je fonce et si ça marche pas, je vais regarder de plus près.
Il est très probable alors qu'il y a un BIOS UEFI.
Mais en fait, c'est quand j'ai appuyé sur quand j'ai vu le menu de boot, il y avait marqué BIOS. Il y avait marqué BIOS, c'est pas UEFI.
On parle, toutes les interfaces graphiques que tu trouves sur les nouvelles cartes mères, nouveaux PC, parlent effectivement de UEFI BIOS, en fait.
En fait, c'est marqué BIOS aussi.
Ouais.
D'accord. Donc, en fait, j'ai pas été fouillé dedans, donc peut-être que c'était du UEFI. En tout cas, ça a fonctionné très bien. Enfin, le boot sur la clé USB, aucun problème. Redimensionnement de la partition avec Windows, sans problème aussi. Relativement rapide, vu que c'était du SSD. Tout reconnu correctement. Donc, que ce soit le touchscreen ou je sais pas, le Wi-Fi ou d'autres choses comme ça, très bien reconnu. Je pense que le point qui était le plus compliqué à mettre en place, c'était Optimus, vu qu'il y a deux cartes graphiques. Ça reste assez bancal, je crois.
Enfin, ouais, mais depuis que Linus Torvald a fait un joli fuck à Nvidia, ils ont promis de s'améliorer. Ça devrait venir.
Ouais. Mais là, c'est Nvidia et Intel doivent faire des choses ensemble.
Là, c'est plus compliqué quand
même. Mais après, pour se servir d'Optimus et tout ça, il faudra utiliser Lutris, qui a une option spéciale pour lancer les jeux avec OptiRun. Et sinon, pareil, le truc qui est décevant, mais ça, c'est systématique sur tous les portables, c'est l'autonomie quoi, qui en prend un coup.
Voilà, il y a des moyens de bidouiller un peu.
J'ai installé TLP et tout ça, mais ça reste vraiment moins bon que ce qu'on peut avoir sur Windows. Quoi. Et c'est un peu le point qui me fait hésiter à prendre une nouvelle machine, un nouveau portable. C'est que j'aimerais vraiment un portable qui ait la même autonomie sur Windows et sur Linux. Quoi.
Sachant qu'effectivement, Intel, qui est pourtant impliqué dans le logiciel libre, ne fait pas trop d'efforts, j'ai l'impression, de ce côté-là.
Oui. Mais ça, c'est vraiment le gros point à améliorer sur Linux en général. Quoi. C'est vraiment la gestion de l'énergie et tout ça.
Et moi j'ai une question, est-ce qu'avec CPU Frack Util, ça ne fonctionnerait pas?
Ça, c'est installé par défaut sur toutes les distributions. Enfin...
Et ça ne fonctionne pas avec ton processeur donc?
Si, mais il est en mode, il ne tourne pas à fond le processeur.
Il est en mode on-demand, c'est ça?
Oui, il est on-demand, ouais.
Et ça consomme plus d'énergie que sous Windows?
Mais ça, c'est sur tous les portables. Quoi. Ça passe de... Alors sur Windows, tu dois avoir à peu près 9 heures d'autonomie. Et là, ça passe direct à 5 heures ou un truc comme ça. Quoi. Et ça, c'est chez tout le monde. Quoi.
Disons que les constructeurs ont très vite mis en place des logiciels spécifiques qui permettent d'abaisser la tension du processeur.
En partenariat avec les éditeurs des systèmes d'exploitation.
Voilà, c'est ça, des petits hacks qui permettent de...
Ils sont pré-vendus avec ces systèmes d'exploitation-là. Du coup, ils s'arrangent pour que dès l'achat, ce soit avec la meilleure autonomie, effectivement, sans penser que...
Voilà, c'est-à-dire qu'ils baissent le voltage du processeur, ils baissent la fréquence, ils font en sorte que l'ordinateur soit beaucoup moins performant pour gagner effectivement en autonomie. C'est une des astuces auxquelles fait appel Apple, notamment sur ses Macs, qui ont une autonomie quand même relativement importante quand ils sont sous Mac OS X.
Mais ça, je vois pas pourquoi c'est pas possible de faire la même chose sur Linux.
Alors, je pense que c'est pas une question de possibilité, il faut que sous Linux, il y ait un jour quelqu'un qui ait envie de se mettre à programmer tout ce joli système équivalent.
Les constructeurs, quoi. Enfin, le premier constructeur qui le fait, je prendrais cette machine, quoi.
Bien sûr, il faut juste que ça vienne. Je pense que de la même façon qu'on a depuis que Steam a annoncé Steam OS, on n'a jamais vu autant de constructeurs de jeux vidéo, d'éditeurs, de studios annoncer des jeux sous Steam OS. Maintenant, quand les machines sous Linux se vendront un peu mieux, peut-être justement grâce à l'arrivée de Steam OS.
Après, c'est des machines de salon, quoi. Donc
voilà. Oui, mais non, tu as aussi des portables, tu as beaucoup de joueurs qui achètent des portables et peut-être qu'on arrivera. Ouais. Il faut juste que notre système se démocratise un petit peu plus pour qu'il intéresse un peu plus les fabricants, les d'ordinateurs, pour qu'ils fassent des efforts dans ce sens-là.
Ouais. Même les constructeurs, comme Lenovo, qui sont traditionnellement, qui supportent très bien Linux, j'ai pas l'impression qu'ils font plus d'efforts que les autres.
Pour l'instant, non, parce que peut-être que la vente de machines Lenovo à des gens qui vont y mettre Linux est anecdotique, ou de la même façon, les gens qui utilisent Linux ne se plaignent pas outre mesure à Lenovo parce qu'ils sont déjà très contents que tout fonctionne out of the box.
Oui, ça fonctionne, hein, mais c'est juste que ça fonctionne moins bien que ce que ça pourrait.
Bon, voilà. En tout cas, une installation qui s'est bien passée.
Très très bien.
Et alors, Unity avec un écran tactile
Ça marche bien. Ouais. Après, voilà, il y a le seul aspect tactile que j'ai vu, c'est quand on met trois doigts sur une fenêtre. Ça permet de redimensionner, de les déplacer, des trucs comme ça. C'est vraiment le seul truc.
Est-ce que tu as pu tester GNOME, parce que je suis très curieux, GNOME 3 avec
Ah non, j'ai laissé Unity genre par défaut, ça.
Ça serait peut-être bien un jour qu'on essaye de se pencher sur la question. Il paraît que c'est très agréable.
À tester, ouais.
Bon, un autre retour d'expérience, et après on s'écoutera un petit peu de métal, choisi toujours par toi, Mathieu, c'est que tu vas nous parler de Zabbix. Qu'est-ce que Zabbix, c'est que Zabbix?
J'aimerais que Antoine vienne nous voir s'il est toujours là, parce que c'est lui qui est spécialiste.
Antoine n'est plus là, il a dû partir avec Isa.
Isa est toujours là.
Ah non, elle est là. Il est au téléphone. Alors on va peut-être attendre. On peut peut-être passer une petite couche de métal.
Alors on va parler vite fait de Open Metalcast.
Exactement. On va changer un peu le programme.
Oui. Et Open Metalcast, donc qui est un podcast en fait que j'ai découvert il y a pas longtemps. Donc ils ont un site web et ils ont une page Google Plus qui est axé métal et musique libre. Donc l'occasion de découvrir plein d'artistes qui font de la musique libre. Donc leur slogan, c'est traduction française, c'est le podcast qui t'arrache la tête et que tu peux partager à tes amis.
Une fois que tu as la tête arrachée, ça peut devenir compliqué.
Ouais, mais bon, tu peux le partager au moins. Donc oui, ça fait partie des le morceau qu'on va passer, une protestante. Je l'ai découvert plus ou moins par Open Metalcast, en fait.
D'accord. Est-ce que tu peux donner la licence de ce morceau
Qui est en Creative Commons by NCSA.
D'accord. Bon, on lance ça de suite. Protestant, Carillon. Et sachant que si vous voulez du métal qui arrache la tête, il y a Open
Metalcast.
Protestant, Carillon sur Radio Girol. We'll be right back.
Girol, la radio libre.
Vous êtes de retour, c'était Protestant Carillon sur Radio Girol. Ça fait du bien d'avoir un peu de métal sur cette radio, hein, on n'en a pas souvent.
Très bon mélange de post-punk et de black metal.
Antoine n'est pas disponible.
Antoine n'est pas disponible, donc je vais raconter n'importe quoi sur Zabbix.
Alors, qu'est-ce que c'est que Zabbix ?
Zabbix, c'est un système de monitoring serveur.
Un peu comme Nagios.
Un peu comme Nagios, mais Nagios qui me semblait un peu lourd à mettre en place. Et donc je vais demander conseil à Antoine qui utilise donc ça sur ses serveurs. Et en effet, c'était relativement simple à mettre en place. Donc j'aurais bien aimé qu'il soit là pour en parler un peu mieux, mais il m'a fait une petite démo de ce qui était possible de faire avec. Et ça a l'air d'être vraiment très complet. On peut surveiller plein de choses sur ce serveur.
Donc, sachant que ça prend en charge les protocoles SNMP, par exemple.
Ça le prend en compte, oui.
Sachant que ce que j'en ai vu, parce que du coup, Antoine m'a aussi convaincu que ça pouvait être un système. On avait vu aussi un système ici, qui nous a été présenté, ouais. Qui était pas mal aussi. Alors, ce sont deux fonctionnements différents. C'est que Zabbix a besoin d'un agent sur la machine à surveiller. Donc, ouais. À installer, ça s'installe assez facilement. Moi, je me suis renseigné pour, notamment, j'ai beaucoup de FreeNAS d'installer et j'aimerais bien les monitorer. Ça, c'est tout à fait possible d'installer un agent Zabbix.
Ça a l'air d'être compatible à peu près sur tout.
Voilà, c'est même Windows. Même Windows. Il y a une appli mobile apparemment qui permet de surveiller tout ça. Elle est disponible depuis les Google App Store, Play Store, pardon. Donc, c'est le modèle de Zabbix. C'est un serveur avec MySQL, Apache, PHP qui permet d'installer le centre de surveillance, la tour de contrôle.
Il y a un truc en PHP qui va tourner sur tes serveurs.
Ah, mais il y en a déjà des trucs en PHP. Mais c'est dans un conteneur, c'est bien isolé.
Voilà. Ça pose pas de problème. Il y a effectivement un agent que l'on installe de façon un agent binaire qui récupère les données et qui assure la communication. Voilà. Et ensuite, on récupère à peu près ce que l'on veut.
Donc, il faudrait, ce que je compte faire, c'est faire une petite recette pour installer l'agent, sur tous les conteneurs avec Ansible. Donc, ça va un peu automatiser toute la procédure.
D'accord.
Vu qu'il y a un dépôt à ajouter, plein de choses. Si, c'est dans les dépôts Ubuntu et Debian. Mais vu que j'étais parti pour utiliser la dernière version, donc j'ai utilisé le dépôt directement de Zabbix.
D'accord, et au final, pas de problème, tout a fonctionné.
Ça a fonctionné, alors j'ai eu quelques petits soucis, parce que sur les conteneurs LXC, donc j'avais deux adresses IP. Ça faisait un petit conflit pour que l'agent rentre en contact avec le serveur. Une fois que c'était réglé, ça se tourne parfaitement.
Voilà, est-ce que tu as pu tester du coup les alertes par mail, SMS ou...
Non, je n'ai pas testé ça encore. J'ai vu qu'il y avait un système d'alerte par pushover que j'utilise déjà pour IRC et GitHub, donc qui permet d'envoyer une petite application Android qui permet d'envoyer des notifications push sur différents événements. Donc il y a aussi une application, un plugin qui existe pour Zabbix.
D'accord, donc que du bon, tu nous en reparleras du coup un peu plus tard.
Quand je l'aurai un peu exploré, bien configuré, tout ça. Oui.
Et ensuite, tu feras un atelier, comme ça, tu mettras les petits copains au parfum.
Exactement.
Avant que tu partes aux États-Unis, quand même.
Ah ben, j'espère, ouais.
Bon, merci beaucoup, Mathieu. C'est la fin, il est 22h02, nous sommes presque à l'heure.
22h, on n'est jamais resté aussi tard à Girol.
Excusez-moi, il est 20h02 et nous sommes à l'heure. Et donc, nous allons pouvoir quitter cette émission à l'heure. Nous l'avons commencé à l'heure, ce qui est assez exceptionnel quand même. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, sachant qu'effectivement, on a un peu zappé une grosse partie de la musique, mais on s'améliorera, promis.
Apprendre nos erreurs. Et puis, vous pouvez retrouver les podcasts sur le site, sur la page radio.girol.org, qui seront découpés,
automatiquement,
auto-téléversés.
Voilà. Dès que je vais appuyer sur le bouton stop, vous les aurez, en fait. En attendant, je vous propose comme en ouverture un morceau General Fuzz, The Jam. C'est un morceau qu'on aime bien chez Girol, passez tranquille et ça conclut bien la soirée. Allez.
Toujours sur licence libre.
Voilà, on se voit l'année prochaine. Bonne fête de fin d'année à tous.